yo, this is the narcissist, the Euphrates, nomadic massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
What up? This is Ludacris, and you're listening to CKUT.
Hello and welcome to Viewpoints. My name is Boris Hussain. I'll be here with you for the next half hour. On today's show, in Montreal, ravers rally to save nightlife group Montreal 2424.
After 3 years of working with them, they decided that probably they knew better now than we do, and that they did not need us anymore. So they decided to cut our funding. So it's basically a debt that they're wishing us.
Out in BC, the former Green Party deputy leader was found guilty of contempt of court.
Her intention had nothing to do with that. Her intention had to do with abiding by her own laws and her own obligations as a Kwok Wok Wok land guardian.
Hundreds of Sackville area properties see assessment spikes of over 25%. Citizens wonder how to face the tax hikes that go with it.
My house has gone up $110,200 in 1 year. I haven't so much as planted a tree on my property. And in the last 6 years, it has gone up almost $300,000.
And to Nova Scotia, where city officials gamble to support people experiencing homelessness, taking on the provincial government's responsibility, and it pays off.
There's just been a buy-in unlike anywhere else I've ever been, that everyone wants to be a part of it, and everyone wants to support this equity-deserving population in a way that is just very unique.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
Thanks so much for keeping us company. Former Green Party of Canada Deputy Leader Angela Davidson was convicted of 7 counts of criminal contempt of court in a Nanaimo courtroom on January 18. This for repeatedly breaking an injunction against blocking logging operations in the area of the Fairy Creek watershed on West Vancouver Island. Davidson, also known as Rainbow Eyes, was convicted for participation in an anti-logging blockade on West Vancouver Island in 2021 and 2022. Davidson, who also was the Green Party's Indigenous Affairs critic, is a Kwakwaka'wakw person and a member of the Danukda First Nation. She argued that her actions were supported by her position as a Kwakwaka'wakw land guardian. More with Mick Sweetman in Nanaimo, British Columbia.
Davidson locked herself to a log and roll gate with a bicycle lock around her neck and one arm inside a pipe, where she was chained to another protester within the injunction zone in May 2021. When she refused to leave, an RCMP officer gave her a written copy of the injunction granted to forestry company T.O. Cedar, banning the blocking of the road before arresting her. A month later, Davidson climbed on top of a grader, singing and drumming, preventing forestry workers from using it as other protesters blocked his path. Davidson was read the injunction order and arrested again. Davidson's lawyer, Ben Isaac, says Davidson was acting to prevent the forestry workers from injuring other protesters.
Her position is that the Teal Cedar contractor was driving a bulldozer unsafely in a way that was threatening the safety of some individuals who were gathered near the gate. And so in order to protect the people near the gate, she got onto the bulldozer so the operator couldn't threaten the safety of the individuals gathered near the gate.
Isaac says the crux of the case was if Davidson had what was known as a guilty mind, when she violated the injunction and her bail conditions.
Essentially, whether she intended or was willful or reckless as to whether her conduct would bring the court's reputation into disrepute or would lower the reputation of the court. And so our argument is that her intention had nothing to do with that. Her intention had to do with abiding by her own laws and her own obligations as a Kwok Wok Wok land guardian.
Davidson, who's also the Green Party's Indigenous Affairs critic, is a Kwakwaka'wakw person and a member of the Danukda First Nation. She argued her actions were supported by her position as a land guardian in accordance with Kwakwaka'wakw customs and traditions. In his judgment, Chief Justice Hinkson wrote that while the evidence demonstrates that Ms. Davidson was invited onto the territory of the Panashta First Nation, nothing before me demonstrates this invitation gave her some sort of license to pursue the interests she had as a land guardian in her own First Nation. I find Ms. Davidson's role as a land guardian did not entitle her, let alone require her, to enter the territory of another First Nation to impose her priorities in such territories. In 2 of the following charges, Davidson brought food to the protest camps near Fairy Creek, and twice in January 2022, she entered the injunction zone to help search for Kevin Bear Henry, who had gone missing in the area in November. According to Isaac, Davidson argued the search for Henry was a necessity.
Particularly the search party allegations we argued that at most her conduct was de minimis and was a trivial or trifling infraction, and that she shouldn't be convicted on that basis.
Chief Justice Hinkson wrote that he did not believe Davidson entered the injunction area to search for Henry, and instead said that her purpose on those days was to continue her opposition to old-growth logging by Teal Cedar. Isaac says while Davidson was convicted, it was important to put the question of indigenous law before the court, and the judge's ruling may open possible defenses for indigenous people acting on their own land.
The judge's findings are quite specific to her. So, for example, she's from Kwakwaka'wakw territory, not from the Tsleil-Waututh, where the protests were occurring. So there's elements of the written decision that leave the door open for land offenders, particularly in their own territory.
A Gladue report is now being prepared for sentencing, which is expected to happen sometime this spring. This is Mick Sweetman.
Hi, I'm Pamela Hassan in Smithers, BC, and you are listening to Viewpoints.
Sackville resident Sabin Dietz says that she was shocked when she took a look at her property assessment notice sent by Service New Brunswick. She was surprised to see that her home, an older house well outside of town, is now worth a whopping 28% more than it was last year. Hundreds of Sackville properties were also hit by the same hikes in 2024, amounts that will surely be reflected in future tax bills. Jamie Smith has been a realtor in Sackville for the past 14 years. He says housing sales over the course of the pandemic have increased by over 80%. Erica Butler in Sackville, New Brunswick, checks in with Smith about the source of the spikes, the province's hot pandemic housing market, and also with some homeowners who are facing the shock. They share their concerns about the impact on the wider community, as well as their experiences with appealing those assessments with Service New Brunswick.
Property owners in New Brunswick have started receiving their updated property assessments in the mail, and plenty of Chanchamar residents are getting a shock. Hundreds of properties are seeing increases in their assessments of 28 to 29% over the previous year, and many are reporting that the increase has come without any work done to their properties.
My house has gone up $110,200 in 1 year. I haven't so much as planted a tree on my property. And in the last 6 years, it has gone up almost $300,000.
Alana Best bought her house on Charlotte Street in 2018 and has been fighting off large assessment increases since then. This year, she's looking at a 17.5% hike, which could drive her taxes to around $800 per month. Best's house is somewhat unique in Sackville, a large home with some luxury amenities, and market prices all over the map since it was first sold in 2014. She bought the house low after a previous owner had defaulted on the mortgage. And in her original appeal to Service New Brunswick over massive assessment increases, she included letters from realtors attesting to the actual market value of the property. Best was able to get Service New Brunswick to reduce their first assessment hike, but since then, she has been submitting requests for review and getting refused. Last year, she sat out the request for review process due to the emotional toll it takes.
I was so emotionally upset over it that I couldn't go sit in a room with them again and have the discussions that we had had, because the year prior, I was crying my eyes out.
This year, Best expects to submit a request for review for her 17.5% hike. Service New Brunswick says that last year they received nearly 9,000 requests for review. That's a new high, up from roughly 5,000 to 6,000 requests in 2020 and 2021, before they started adjusting assessments to match New Brunswick's surging housing market. And while the number of review requests has gone up, the chances of success have gone down. Last year, about one-fifth of reviews resulted in a lower assessment. Just 2 years previous, in 2021, nearly half saw a reduction. Service New Brunswick spokesperson Jennifer Vianos says that no requests for review have resulted in higher assessments in recent years, and property owners have 30 days from the date on their assessment to file a request for review. High Marsh Road resident Sabina Dietz is not sure if she will file a review, but she will be calling Service New Brunswick for an explanation of the 28% hike in her assessment.
We have an old house, so it's from the 1800s, and there's nothing that's happened over the last couple of years to the house, except sort of internal renovations and things. So you can't really, from the outside, see there's no change to the house, essentially. And I know there's one house that has been built on Church Street since then. Since last year. So there's one house that's been added. So seeing a $46,000 increase to the value of our house, which is in our case quite a lot. Our house was assessed, I think, at $167,000 last year, and now it's over $213,000 or something. That's a gigantic jump for an old place, that I was really surprised.
Dietz says she almost didn't look at her assessment notice since it's not an actual tax bill, but more a warning sign of things to come. But she's encouraging people to make sure they open the envelope from Service New Brunswick.
I think people need to be aware and should look at their assessments and then think about, well, what does it mean for my pocketbook?
Realtor Jamie Smith has been working in real estate in town for 14 years. He says the assessment spike is a sign that Service New Brunswick is playing catch up with spikes in the housing market that took place during the pandemic. Smith says he considers pre- and post-COVID to represent two different markets.
So Sackville, basically over the last 5 years, average sale price has gone up 81%, from the mid-160s to the mid-290s. Tangipahoa area actually went up even higher, so that includes Dorchester, obviously, and kind of the outside areas. Average sale price, $287,000, so just under 87%. Average increase over 5 years. Basically, all of that increase happened from 2019 to 2022 and then leveled off for 2023. In terms of assessments, obviously, we're seeing the assessments catching up to market value, which is a tough pill to swallow for a lot of people.
And the upward adjustment in assessment is not exactly evenly applied. Across the municipality, 2024 assessments have gone up 9.2%, according to numbers released by the province in October. But buried in that average are hundreds of properties facing to 20 to 30% hikes. Over on Wellington, Judith Weiss's assessment has gone up 50% over the past 2 years. She owns her own home and two neighboring properties, which she rents. She says she won't be raising rents to absorb the higher taxes, but she's not confident most landlords will be able to do the same.
And I happen to be in a position to absorb it for the time being. But then I think of other property owners who are not in my position, and most of whom are in it for the income. So their net income will be reduced. So they will either resort to rent evictions to raise rents up to 30% or more, or they will neglect necessary maintenance to protect some margin of profit. And it's only logical that this drastic increase will result in worsening housing conditions all around.
Weiss is concerned about the broader effect of the sharp rise in assessments.
I'm looking at a street like mine. There are two houses rented to students, three houses whose owners are seniors on fixed incomes, three houses owned by single parents or a single wage earner for a family of four. If the property assessments on even two of these houses are allowed to stand because of their supposed market value, that will in turn justify increases for all the other houses based on that same false premise.
Sabina Dietz shares a similar concern.
We're okay personally with that increase, so I'm not worried about it for me. But what it means for the community and for people who can't afford this kind of increase and looking forward at increases in a community where we've got so many older homes and older places, where we know we already have challenges with food security, with challenges around housing, all of these, low-income housing, housing opportunities, affordable housing opportunities. We have already problems and challenges around that. And so you throw that on top of that, these things are all connected. And so my assessment increase is totally connected to what else happens in Tantramar and where it happens and how people are impacted to it. So, of course, I worry about it.
That's High Marsh Road resident Sabina Dietz. Many property owners will have some protection from this year's high assessments. New Brunswick's Spike Protection Program limits tax increases on those with assessments growing by more than 10%. Dietz points out that 10% is still a significant hike, and those with nearly 30% hikes can expect to see those 10% increases every year until their assessments catch up. In neighboring Nova Scotia, which has a longer history with wild housing markets in some areas of the province has a capped assessment program which limits assessment increases to the Consumer Price Index. This year, the Nova Scotia program ensures assessment values won't grow by more than 3.2% unless there's been work on the property or it has changed hands.
On the air with Viewpoints.
And while Sackville residents are fighting property tax hikes, things are looking up for a community hub. An emergency shelter with regular meals and 6 supportive housing units is set to open in Amherst, Nova Scotia, early next month. It was a project that was discussed for years, but made reality soon after the town's council ponied up $100,000 to create a new position. The position of executive director of the Cumberland Homelessness and Housing Support Association was created with funds out of the municipal budget. The person who holds that position was tasked with making the project a reality. Ashley Legere is that person. After languishing for years, the project and build are now fully funded with the money kicked in from both the province and the federal government. Tori Weldon in Sackville, New Brunswick.
This is the studio.
Ashley Legere is the proud leader of this tour. She points to a nearby building.
Like the green roof over there.
Yeah.
That's where we operate our daytime location. And then the church that's right there is where we operate the nighttime location.
The Cumberland Homelessness and Housing Support Association is currently running its services out of 2 different locations in downtown Amherst. Ashley Legere is the group's executive director.
They're not very far apart. I mean, you can see one from the other, yeah. But it's moving people out at 8 o'clock in the morning in the freezing cold or snow to go to another place is inhumane.
But things are about to change. This brand new building is almost done. The plan is for it to be a lot of things to, unfortunately, a lot of people. Located at 10 Prince Arthur Street, this construction will be an emergency shelter, supportive housing, a place for people in need of food, and generally a place to access help and services as they arise.
What kind of need is there? So we did a service-based count, and I say we, the town and the YMCA of Amherst did a service-based count back in 2021, I believe, and there were 48 individuals who identified as sleeping rough or precariously housed. From January of 2023 until May of 2023, we ran an overnight space at the Crossroads Church, and we saw 39 unique individuals access the space. On average, between 6 and 12 per night. And that's what we're seeing now.
This is just Amherst?
This is just Amherst. Yeah, we do see people coming in for more supports and food security reasons mm-hmm. during the day. So we house between 6 and 12 individuals in our overnight shelter on average, but we are serving upwards of 50 meals to a day to individuals who are housed. Yes, so since May, we have served over 10,000 meals.
In just Amherst alone?
In just Amherst. We're the only place that is open 24 hours a day, 7 days a week. We're also the only place that serves meals that many times. So we serve 3 meals a day. Breakfast is continental. Lunch and supper usually is a bagged lunch that you can come in and get and leave if you'd like. There's no barriers to these services. So I'm not asking you if you're housed. I'm not asking you what your income is. If you feel like you need to come in for a meal, then you should be able to come in for a meal.
What kind of services do people have, like if they come here, what do they have access to in order to take the next step to not need it anymore?
So we will work with the YMCA outreach team directly. We will have case management. So we'll be working with people to support them in their needs based on what their needs are. Right now we have access to mental health and addictions. They come in once a week in the afternoons. We have public health comes in and does vaccinations. We're working with VON moving forward with the YDC currently, so the Youth Development Center. We're all really connected. We have this coordinated access. We meet regularly and discuss what we're doing here. Any support that you could think of has offered and committed to be here. There's just been a buy-in unlike anywhere else I've ever been, that everyone wants to be a part of it, and everyone wants to support this equity-deserving population in a way that is just very unique.
And there are a lot of unique things about this project, as Legere mentioned. Community groups, nonprofits, and many citizens of Amherst are in support of what's happening. It's a level of collaboration that's hard to achieve. But another standout feature is the municipality's approach. Housing is a provincial responsibility, so many municipalities try to figure out ways to get the province and the federal government to help to address their issues. What Amherst did differently is it took a carefully thought-out leap of faith. the town committed to pay the salary of the newly created executive director position, the one Ashley Legere fills. And then it tasked her with getting 10 Prince Arthur built.
Housing is an all-hands-on-deck problem. People living in poverty and living with homelessness and going, you know, out in minus 20 temperatures in the wintertime, not having a place to shelter, is an everybody problem.
Leon Landry is a Town of Amherst councillor. He's a member and chair of the Poverty Reduction Advisory Committee, which is an Amherst Council committee. He's also a member of the Cumberland Homelessness and Housing Support Association. He knows how hard volunteers at nonprofits were working to combat homelessness. But doing good off the side of a desk is hard, and the demand was outgrowing the resources.
Ultimately, we understood that in order for these not-for-profits to obtain monies from the provincial government in order to do the things that they wanted to do, aside from volunteer work, it would be the best use of our funds to enable them to do that. So we've tried to leverage small amounts of municipal funds to enable not-for-profits to access funding from other levels of government.
Was there any fear that this would take some of the responsibility away from the provincial government, or that you'd be sort of paying for things that other places aren't? Or, you know, just that fear of sort of getting involved and then being stuck with it?
Yes, there was that, you know, that criticism or that skepticism came up in the conversations. You know, well, you know, this is the provincial responsibility. You know, if we take it on or we start to contribute financially, are these roles going to be downloaded to us? And I think the proof is in the pudding. I mean, the Department of Community Services flat out said, we would not have funded you had this executive director position not been created. Mm-hmm. So it's the opposite. We're accessing funds that probably would not have been available to this organization of volunteers had we not contributed. You know, it adds that level of, I'm going to call it risk aversion, that makes provincial governments feel like, okay, the community as an organization, the municipal organization, feels confident enough in this group of folks to give them $100,000, mm-hmm. which, you know, is not a small amount of money when you're talking about a municipal budget. Because of that, they proceeded to, you know, give them capital costs and operational costs. And, you know, Ashley's done a great job of raising funding all over the place, to the point where, you know, the project is now capitalized and paid for. Which is pretty exciting. And we're looking at the doors being open imminently.
It's a great start, according to Leon Landry.
But it's really actually only going to work if all of the communities across the country and even beyond that buy into that type of behavior, you know, because, you know, it's all one market.
And Ashley Legere says she hopes to talk about this project with Tantramar Town Council soon.
This is a one bedroom.
Okay.
And then beside us, I'll take you through the whole place, but...
Listening to Viewpoints with Boris Sessang.
Ravers gathered in Montreal's Old Port next to the St. Lawrence River in support of Montreal 2424, an organization whose funding was cut by the City of Montreal last week. For the past 3 years, Montreal 2424 has worked with the city as a local hub for research, engagement, and events about Montreal's nightlife. But the future of that work may now be up in the air. Last week, the city declined to renew that funding after announcing their new nightlife plan for Montreal's Quartier Latin, according to Montreal 2424. On a snowy night in the Old Port of Montreal, supporters of the organization DJed and danced outside of Monday's City Council session. Inside, Mayor Valérie Plante chose not to answer questions about her priorities in the sector, with Executive Committee President Luc Rabouin taking the floor for her instead. More with Jules Bugiel in Montreal.
Bright lights, loud music, warm clothes. The scene in the Old Port on Monday night had all the makings of a good rave. But the partiers were gathered outside the Lucien Saulnier building with another purpose, to show their support for a nightlife group whose budget was cut by the city councillors inside.
oh, I got an email, a two-line email, saying that they could not accept our funding application because the nightlife policy was going in public consultation at the Economical the Commission of the Economical Development, and they were waiting for the results of the commission to set the priorities for the city. So that means that
by the time that's all finished, the city will have moved on to funding for 2025, says Mathieu Goldin. Goldin is the general director of Montreal 2424, a local hub for research, engagement, and events about Montreal's nightlife. It's an organization whose very existence is in danger unless the city changes course.
Tonight is a demonstration because the city decided to cut our funding. After 3 years of working with them, they decided that probably they knew better now than we do, and that they did not need us anymore. So they decided to cut our funding, and that means for us the cancellation of the Night Summit, the laying off of all our employees, and we have to stop the activities of the Night Council too. So it's basically a debt that they're wishing us.
That decision comes hot on the heels of the city's new nightlife strategy, which would see the Quartier Latin become a 24-hour zone. Goldin says the city's focused on extending alcohol sales when the issues facing nightlife are much larger.
Of course, it's a step back. I think right now the city thinks that they need to do is to open venues, bars later than 3 a.m., maybe in the Latin Quarter, and that's about it. That's their old vision. That division is selling booze after 3, and that's it. They don't seem to recognize the depth of the problems when it comes to zoning, to noise bylaws, to lack of affordability of nightlife for youth. So it's something that we need to do to act upon, and act upon it fast, because we're slowly becoming a Toronto that speaks French. So who's going to want to come here?
Christian Bonneau was one of those who came out on Monday to support Montreal 2424. He said the city's policy lacks vision.
Nightlife is important, so they're like, okay, we'll give a shot. So Montreal 24, they did a full mandate. Now the city is like, okay, we're going to come out with a policy. And the policy they came up with is what the old administration came up with. Oh, we're going to do Le Quartier Latin as... But if you go physically in the space, there's no real physical space. There's no building for that. So you're like, okay, how it's going to happen?
He said that any money the city spends on groups like Montreal 2424 pays dividends down the road in the strength of its nightlife and festival scene.
There should be really like more actor involved, you know. It's not just like the nightlife industry or the bar industry. No, it's all the industries, you know. I mean, if we want that as a culture to live and as an industry to flourish, because like I said at the beginning, you know, it does represent a lot of money. You know, it's millions of dollars every year. Jazz is part of that. Francophonie is part of that. You know, Oceaga is part of that. Picnic Electronic, Igloo Fest, like all those, you know, Mad Festival, Fashion and Design, all those art things. I mean, it drives the city. Montreal is known as a festival city. Like it's just a logic thing. But, like, you need people to organize, like...
Inside the Lucien Saulnier building, Mayor Valérie Plante was asked about her commitment to the sector. Executive Committee President Luc Leboin countered.
On finance des projets, on finance pas des organismes.
We finance projects, we don't finance organizations, he said, adding...
Il y a eu plusieurs séances de travail pour qu'on arrive.
There were several working sessions so that we could develop a nightlife policy that seems to us interesting and ambitious, and that certainly aims to address many of your concerns. What does it take? It takes consultations in which stakeholders will be able to speak, as well as the entire Montreal population. All the organizations can give their opinion on what is essential and relevant in the policy, what is less so, but above all, what are the priority actions that we need to take in the short term, where we should start. The mayor's office did not immediately respond to a request for comment. Only time will tell how those consultations will go if the city is at odds with its nightlife sector. And the future of Montreal 2424 remains up in the air. I'm Jules Bijal. Thanks for listening.
And thank you for bringing this story to us, Jules. And this concludes this episode of Viewpoints, brought to you by the Community Radio Fund of Canada. Thanks to our journalists this week, Jules Bugiel, Mick Sweetman, Tori Weldon, welcome, and Erica Butler. Our national editors were Maureen McEwen and Victoria Fenner. I'm your host and producer, Boris Chassaigne. Comments, ideas, suggestions, please write at radio@frequencynews.ca. That's radio@frequencynews.ca. Also, catch all our stories at frequencynews.ca. Please stay tuned to what follows. Thanks for keeping us company this week, and until the next, ciao.
Calendar every last Tuesday of the month, and tune in to a special series of Soul Perspectives on 90.3 FM.
Tuesday from 7 p.m. to 8:30 p.m.
Broadcasting live from West Haven Community Center in NDG.
Tune in to a special series of Soul Perspectives on 90.3 FM.
This Tuesday, January the 30th, we have special guests Zoo 365 Fitness, Sita Gabriel,
and DJ TJ.
Last but not least, West Haven Teens and the After School Program will be blessing us with a special segment.
So, don't forget, tune in every last Tuesday of the month.
Soul Perspective, live from West Haven Community Center. Tune in.
See you then.
This is a West Haven and CQT co-presentation.
Bonjour, ici Thomas Jensen, vous écoutez CKUT au 90.3 FM.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on traverse l'Ontario, le Québec et l'Alberta pour vous dire que la francophonie du monde entier s'est donné rendez-vous à l'événement culturel Contact Ontarois.
Et c'est hyper important pour nous de se rendre compte des différents enjeux qu'on a, différentes difficultés qu'on partage ou qu'on ne partage pas, de se rencontrer tous et de se faire aussi partager nos découvertes musicales de chez nous.
Rachel Notley, chef du NPD en Alberta, quitte ses fonctions, laissant un vide béant derrière elle, le drapeau du parti est en berne.
C'était une journée difficile parce qu'on a travaillé ensemble pour bien des ans. Je suis tellement fière d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. Ça fait 8 ans que je travaille avec elle.
Le Libanais d'origine, Fadi Daguerre, est devenu l'an dernier le nouveau chef de police de la ville de Montréal. Il milite depuis pour une police inclusive.
On veut que le SPVM se mette dans une posture d'humilité, de respect envers les diversités et ne pas la voir, la diversité, comme un défi, mais comme une opportunité.
À Toronto, la place Sankofa remplacera Yonge Dundas. Les Torontois s'inquiètent de la facture de 12 millions qui vient avec.
C'est toujours bien de réparer les torts, mais est-ce que ça va changer grand-chose? Peut-être pas.
Il y aura toujours des personnes qui vont l'appeler Yonge Dundas, même s'ils changent le nom.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X at Canada LJI.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous accompagner. On se met à l'eau, transition politique majeure en Alberta. Les membres et l'électorat du nouveau Parti démocratique de la province ont la mine basse depuis que Rachel Notley, qui tenait les rênes du parti depuis 10 ans, a annoncé sa démission. Le départ de Rachel Notley, figure emblématique du NPD en Alberta, marque une nouvelle ère politique pour la province, suscitant des interrogations sur le futur du parti et le paysage politique local. En tant que 17e première ministre néo-démocrate de 2015 à 2019, Rachel Notley a joué un rôle majeur dans l'histoire politique de la province. Sa décision de quitter la direction du parti soulève évidemment des questions sur l'avenir du NPD en Alberta et sur sa direction politique à venir. Les observateurs politiques attendent avec intérêt donc de voir comment cette transition influencera le paysage politique et les dynamiques au sein du parti. Élie Nkoulou, postérieurement députée à Edmonton, en discute avec la députée albertaine Marie Renaud, députée du NPD, qui réagit à la démission de Rachel Notley. Veuillez noter que Mme Renaud parle de change, elle veut bien sûr parler de changement.
Marie Renaud, membre du nouveau Parti démocratique de l'Alberta, et critique pour la francophonie. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de discuter des récentes annonces au sujet de la démission de Rachel Notley en tant que chef du nouveau Parti démocratique de l'Alberta et d'explorer aussi les implications de ce changement majeur au sein du parti et la politique de la province. Bonjour, député Renaud.
Oh, bonjour.
Après près d'une décennie à la tête du nouveau Parti démocratique de l'Alberta, Rachel Notley décide de démissionner. Quelle est votre réaction initiale à cette démission?
C'était une journée émouvante. Je savais que ça venait, on le savait, fait qu'on savait pas la journée qu'elle va nous parler et nous expliquer qu'il va arriver, mais c'était une journée difficile parce qu'on a travaillé ensemble pour bien des ans. Ça fait 10 ans que Rachel Notley est le chef de l'NPD en Alberta. Fait que c'était une journée difficile, mais on sait qu'on va avoir du changement. Fait qu'on est un peu excités à ça aussi.
Et en tant que membre du nouveau Parti démocratique de l'Alberta, comment évaluez-vous l'impact de cette démission sur la stabilité et la direction future du parti?
Mais on va avoir beaucoup de change. Fait que ça fait 10 ans que Rachel est le chef de NPD en Alberta, mais c'est temps pour changer. C'est toujours dans les politiques en Alberta, on a beaucoup de change. On va discuter les idées, toutes les directions pour le NPD, puis aussi pour la province. Fait que je pense que ça, je suis excitée de faire ce travail avec mes collègues ou aussi autres Albertains. Fait que c'était une difficile journée pour savoir que Rachel est finie comme chef de NPD, mais je suis tellement fière d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. Ça fait 8 ans que je travaille avec elle, fait que je serais contente de faire ça.
Pensez-vous que le départ de Rachel Notley pourrait avoir des répercussions sur les politiques, les positions du nouveau Parti démocratique et en particulier en ce qui concerne les enjeux liés à la francophonie?
Ah oui, je sais que Rachel a travaillé tellement fort pour créer un caucus. Elle a bâti un caucus, une équipe solide, diversifiée. Fait que on a beaucoup de députés maintenant. On a 38 députés, 37, puis Rachel Notley. On a des députés qui parlent français, c'est pas juste moi qui parle français, fait que c'est un sujet qu'on va parler. On a beaucoup de travail à faire, fait que les candidats qui veulent être chef de NPD, on va y demander des questions pour la francophonie Alberta. On veut savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme chef. Fait que je suis fière d'avoir les opportunités pour parler aux gens en Alberta.
Et comment est-ce que vous percevez l'influence passée de Rachel sur la politique albertaine? Et quelles sont vos attentes pour la personne qui va la succéder à la tête du parti dans les prochains jours?
Oui, ben on va savoir bientôt c'est qui va se présenter pour élection pour chef de NPD. On va discuter les politiques chaque candidat, mais je pense que Rachel Notley a parlé à ça à mardi quand on a expliqué qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle a expliqué pour 44 ans ici en Alberta on a eu des gouvernements conservateurs. Fait que pour 4 ans, on a fait le gouvernement NPD. On a eu beaucoup de changes, mais on a montré aux Albertains et Albertaines que c'est pas une province pour juste les conservateurs. Il y a une autre partie. Il y en a 2 parties ici en Alberta. Fait que je pense que c'est Rachel Notley, son équipe, qui montrait à tous les Albertains que c'est le cas ici.
Et cette démission, est-ce qu'elle ouvre des opportunités pour les NPD de renforcer sa politique albertaine ou soit vous y voyez plutôt des potentiels défis?
Moi, je pense qu'on a une équipe très forte, très diversifiée. On a une députée, la première femme noire dans l'Assemblée albertaine. Fait qu'on a les membres qui sont autochtones. On a plusieurs femmes que hommes dans notre caucus. Fait qu'on a une équipe, on a des idées, on veut parler avec les Albertains et montrer qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que j'ai tellement hâte, 2027 va être la prochaine élection. Fait que je pense que les Albertains vont voir qu'on est une équipe fort. On va avoir un chef fort qui a des idées progressives. Je suis excitée pour la prochaine élection, mais en premier, on va avoir une élection pour un chef de notre parti, puis après ça, on va se placer pour la prochaine élection.
Et en tant que critique pour la francophonie, quel aspect spécifique de la politique ou des enjeux locaux souhaitez-vous voir priorisé dans le discours du nouveau chef du parti, bien sûr?
Oh, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que le chef, le prochain chef, travaille avec les organisations comme le ACFA. Fait qu'on fait beaucoup de travail pour montrer au gouvernement les choses qu'on a besoin de faire. Fait que, comme dans l'éducation, on a besoin de donner les places pour les étudiants qui ont le droit d'avoir éducation en français, en langue française. Fait que les choses comme ça, quand dans le système de santé. On a besoin d'avoir les médecins, les infirmières qui sont capables de parler français avec les francophones en Alberta. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la communauté francophone en Alberta. Et je sais que la prochaine chef va savoir que c'est important aussi.
C'était Marie Renaud, membre du nouveau Parti démocratique de l'Alberta et critique pour la francophonie. Merci de nous avoir partagé vos réflexions sur cette transition des leaderships, les enjeux liés à la francophonie ainsi que vos attentes pour l'avenir du nouveau Parti démocratique de l'Alberta.
Merci, bonne journée.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
La 43e édition de Contact Ottawa s'est conclue le 20 janvier dernier à Ottawa. Plus de 1000 délégués ont pris part à cette foire des arts de la scène et parmi eux, 16 délégués internationaux, lesquels ont pu assister aux performances de 41 artistes inscrits à la programmation montée par Réseau Ontario, un réseau qui depuis 23 ans agit en tant que diffuseur des arts de la scène de l'Ontario français. Les délégués rassemblés à Ottawa pour une 10e année consécutive sont venus de France, de Belgique, de la Suisse, d'Afrique et d'ailleurs, prendre des idées, recruter et découvrir surtout les artistes francophones de partout au pays qui s'y sont produits. Marie Hillès à Ottawa est allée s'aîner, comme on dit au Québec, voir ce qui se passe et nous ramène cet autre reportage sur l'événement.
Romane Scalata est venue de Lyon, en France. Elle est chargée de production dans une salle de chansons francophone.
On est plusieurs déjà à tout bout de champ à être venus à Contact Ottawa. Nous, on vient parce qu'on programme pas mal de projets canadiens, francophones. Voilà, pour nous, c'était important de venir pour garder les liens qu'on a avec la francophonie canadienne, découvrir ce qui se fait ici et puis échanger avec les autres internationaux, la délégation internationale francophone ici. Voilà.
Pourquoi c'est important pour vous de soutenir cette francophonie internationale?
On est beaucoup de francophones sur plein de régions du monde et en fait on est tous dans des secteurs sur des territoires qui sont très différents et c'est hyper important pour nous de se rendre compte des différents enjeux qu'on a, différentes difficultés qu'on partage ou qu'on ne partage pas, de se rencontrer tous et de se faire aussi partager nos découvertes musicales de chez nous et les faire découvrir à d'autres professionnels qui sont sur d'autres continents et à qui potentiellement ça pourrait plaire.
Mambi Mawin faisait aussi partie de la délégation internationale. Elle développe un réseau de diffusion depuis 10 ans.
C'est ma première fois, donc je découvre beaucoup, beaucoup de choses. C'est intéressant.
D'où est-ce que vous venez exactement et qu'est-ce que vous ressentez de différence entre le milieu culturel de chez vous et le milieu culturel francophone du Canada?
Je viens du Sénégal et la différence, c'est que dans mon pays, pour le moment, les secteurs sont tellement séparés. C'est rare qu'il y ait des événements qui regroupent la musique, le théâtre et tout ça ensemble dans une vitrine. Donc c'est souvent des choses assez isolées et là je trouve chouette de voir un programme où on peut aller voir la musique. C'est ce mélange-là de disciplines que je trouve que c'est très intéressant et chez nous c'est différent. Je reçois aussi des compagnies canadiennes. Par exemple, ce mois-ci, c'est la compagnie Voyageurs Immobiles qui est programmée chez moi au Sénégal, que j'ai rencontrée ici à Ottawa l'année dernière. Voilà, donc pour moi, venir ici, c'est enrichir aussi mon réseau sénégalais.
Marie-Ève Chassé, directrice générale de Réseau Ontario, est satisfaite de l'événement.
Qu'on puisse se rassembler, échanger nos bons coups, nos défis aussi. Donc ça, c'est vraiment une des particularités finalement de l'événement, c'est de rassembler justement en son lieu tellement d'intervenants de diverses expertises, de diverses réalités. Et là, en plus, avec les internationaux, ça rajoute une valeur ajoutée à cet aspect-là. Notre objectif, par exemple, avec la délégation internationale, qui était composée là, de 16 personnes qui venaient de Belgique, de Suisse, de France et d'Afrique cette année, c'était vraiment de créer un meilleur mariage entre eux et l'ensemble des autres participants, donc dans l'ensemble de nos membres. Donc, d'emblée, à leur arrivée, on a vraiment créé la rencontre, les échanges, on les a fait vraiment se présenter, s'identifier, voir déjà s'il y avait des possibilités de collaboration ou des antennes qui se rejoignaient pour qu'ils puissent s'assurer de poursuivre des discussions tout au long de l'événement. Et ça, on l'a vu, ça a été générateur de vraiment plein de bonnes idées, mais de part et d'autre. Donc, souvent, on pense, bon, les gens viennent chez nous, on va apprendre d'eux. Mais la beauté de la rencontre cette année, c'est que les internationaux nous ont dit avoir énormément appris de nous et vouloir mettre en pratique aussi certaines choses qu'ils ont appris, discuté, échangé au-delà des vitrines. Donc, il y a des formations, des tables rondes, des conférences. Et on les a vraiment impliqués cette année, nos internationaux. Donc, ils ont vraiment eu de belles discussions et sur plus long terme aussi, parce que ceux qui étaient impliqués, il y a eu de la préparation en amont. Et ils nous disent vraiment que, justement, ils ont hâte de revenir puis de tester nos façons de faire, finalement, qu'ils ont vraiment apprécié.
Pour terminer, elle souligne les réussites de cette 43e édition.
Puis on a aussi, un nouveau prix qui était le prix Audace, qui, dans ce cas-ci, a été décerné à Alex Tétrault et au Théâtre du Nouvel Ontario pour Nickel City Fifth, qui est un théâtre queer. Donc, ça sera aussi la première fois que ce type d'univers-là circule dans notre réseau. Donc, pour nous, c'est vraiment c'est très significatif pour Réseau Ontario parce que le sujet, le thème, l'univers dans lequel on voulait apporter nos participants cette année, c'était justement l'égalité, l'inclusion, l'accessibilité. Donc, on dirait vraiment que les discussions, ça les a transportés tout au long de l'événement. Et ça s'est même répercuté dans leur choix quand ils ont eu à décerner les prix. Je ne pourrais pas être plus satisfaite ce matin.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
On reste en Ontario pour vous parler d'une décision qui défraie la manchette à Toronto. Depuis que les élus municipaux ont décidé de changer le nom de la place Yonge-Dundas pour la rebaptiser place Sankofa, il faut savoir qu'Henry Dundas, qui était un influent politicien écossais à l'époque, aurait, dit-on, et les opinions divergent, voulu retarder l'abolition de l'esclavage. Et Sankofa, explique la ville, fait référence au Ghana, le pays, le Ghana, à l'acte de réfléchir et de se réapproprier les enseignements du passé et qui permet d'avancer ensemble. Les Torontois s'étaient d'abord montrés favorables au projet. Ils hésitent maintenant depuis qu'ils savent que cela va coûter un joyeux 12 millions de dollars. Après deux années de consultation, de recherche et de discussion, le comité consultatif communautaire d'examen de la reconnaissance de la ville de Toronto est parvenu à un consensus sur le nom de Sankofa Square pour la place Yonge-Dundas. Les détails avec Marine Autogali à Toronto.
Un récent sondage de Liaison Stratégie pour le National Ethnic Press and Media Council of Canada montre que 71% des Torontois et Torontoises désapprouvent du projet de changement de nom de la place Yonge-Dundas en la place Sankofa. Réalisé les 2 et 3 janvier 2024 à l'aide de la technologie de réponse vocale interactive, le sondage a été effectué auprès de 831 résidents de Toronto et on explique que la marge d'erreur du sondage est de plus ou moins 3,4%. Nous avons de notre côté choisi de poser la question aux francophones.
Si ces personnalités étaient méchantes pour l'humanité, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Moi, personnellement, en tant que personne immigrée, ça ne me choque pas parce que je n'ai pas le passif, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit dérangeant et qu'ils préféraient voir les choses changer.
Bon, si la vision est de réparer les torts, c'est toujours bien. C'est toujours bien de réparer les torts. Mais est-ce que ça va changer grand-chose? Peut-être pas. Peut-être dans les esprits des personnes qui ont émis la volonté, ça va peut-être leur pousser à croire avoir atteint leur objectif. Mais est-ce que concrètement, ça répare quelque chose? Peut-être pas.
Bon, il y a plein de noms de places en plus dans le monde. Il n'y a pas qu'à Toronto, j'imagine. Il y en a aussi à Paris, dans toutes les villes du monde. Bref, oui, pour le coup, c'est plutôt une bonne idée de changer. Enfin, en tous les cas, je n'y vois pas d'inconvénient.
À l'université, on en a parlé un petit peu. Entre étudiants, etc. Tout le monde a des opinions très divergentes, mais c'est assez intéressant de voir en fait comment la ville évolue en fonction de l'histoire, etc. Donc ouais.
C'est quoi les opinions divergentes que tu as pu entendre ?
Bah, y a des opinions qui disent oh oui, il faut absolument changer, tout comme bah, y a eu un autre exemple, Ryerson, qui s'est transformé en Toronto Metropolitan University, qui a l'opinion de il faut changer quand c'est de l'histoire coloniale, etc. Et tout ça. Et il y a l'opinion qui est mais non, c'est l'histoire, pourquoi est-ce que changer l'histoire ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que, parce que concrètement, c'est juste une place, donc est-ce que en fait, où est la limite? Donc voilà.
Le site de la mairie précise que le concept de Sankofa, le nouveau titre donné à ces lieux qui remplaceront le mot de Dundas, est un mot originaire du Ghana et fait référence à l'acte de réfléchir et de se réapproprier les enseignements du passé qui permet aux gens d'avancer ensemble. Il est aussi prévu de supprimer le nom Dundas de 3 autres espaces de la ville, les stations de métro Dundas et Dundas West et la bibliothèque publique Jane Dundas, à partir de 2024. Les nouvelles appellations de ces lieux ne sont pas encore définies.
Sankofa ? Bon, moi je dis toujours, y a des mots ou des noms, quand on les prononce une fois ou la première fois, ça sonne pas toujours comme on souhaiterait, comme d'autres. C'est pas toujours très agréable à l'écoute à l'instant, à la première prononciation. Mais dans la plupart des cas, quand on s'y habitue, on finit par avoir l'impression que c'est normal. Parce que c'est ça l'effet nouveau. Ça va être dans un départ difficile à accepter, à apprécier, à écrire. Mais après, ça va finir par être dans les habitudes, parce qu'on a des rues qui ont des noms plus compliqués que ça, plus complexes que ça, et des personnes qui y vivent. On va vous dire Thornhill, vous n'allez jamais savoir comment c'est complexe à prononcer, mais les personnes qui y vivent se sentent bien et parviennent à prononcer et à écrire paisiblement. Donc, le nom n'est pas le plus important.
Ça va prendre du temps pour s'habituer à le dire comment ils vont l'appeler. Je parle de nouveau nom, mais je crois qu'il y aura toujours des personnes qui vont l'appeler Jürgen Dundas, même s'ils changent le nom.
Alors moi, ça m'inspire quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Je pense musique forcément, et quand je travaillais en France, il y avait un groupe qui s'appelait Sankofa Unit. C'était un groupe de gospel. Ils avaient fait notamment une émission qui s'appelait La France un incroyable talent. Et c'est tout un groupe. Ils sont énormément. Il me semble que c'est même de la musique que vous pouvez retrouver sur Choc FM 105.1. Donc Sankofa, ça me fait penser à ça. Moi, je sais pas. Le nom Sankofa, ça me fait penser groupe, ça me fait penser unité. Mais c'est peut-être parce que j'ai cette image de groupe de gospel. Je trouve ça sympa. Après, j'ai pas la référence culturelle XY qui est peut-être lié à ça, mais moi personnellement ça me pose pas un problème. Je trouve que c'est sympa, c'est chantant, ça marche.
Alors que les résidents de Toronto étaient majoritairement favorables à ce changement de nom dans l'idée, la tendance s'est inversée à l'annonce des coûts liés à ces changements. En conséquence, la mairie a choisi de mettre en pause la décision de changer le nom de la rue tout entière en raison de ce coût qui pourrait atteindre 12,7 millions de dollars.
Et le fait que ces changements ils reposent aussi sur tes impôts et tes taxes, ça t'inspire quoi ?
C'est vrai que ça fait bizarre, mais moi en fait je pense vraiment bienveillance, et je me dis que s'il y a des gens qui sont vraiment outrés par certains noms, certaines choses, pourquoi ne pas changer ? Parce que quoi qu'il arrive, l'argent des impôts il part quelque part où on n'a pas forcément envie des fois. Donc si ça peut au moins atténuer certaines tensions, moi ça me va.
Le conseil d'administration de Yonge Dundas Square fera un rapport au conseil municipal sur les détails liés à l'adoption de ce nouveau nom d'ici à la fin du deuxième trimestre 2024. Affaire à suivre.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, c'est encore l'hiver ici au Canada, on le précise, pour nos amis qui nous écoutent de l'extérieur. Oui, il y en a. Et on vous salue d'ailleurs, vous qui êtes aux États-Unis, en Tunisie, au Brésil, en Allemagne, en Argentine et ailleurs. Oui, c'est l'hiver, mais ici, les étudiants sont nombreux à déjà préparer leur été et emploi d'été surtout. Chanceux qu'ils sont, ils pourront voyager au pays tout en le faisant via le programme Emploi d'été et échanges culturels Noël, un programme destiné aux 16-17 ans de la Nouvelle-Écosse. Le YMCA Nouvelle-Écosse au travail leur propose cette expérience d'emploi et de découverte d'une autre province. Et en 2024, les jeunes partiront du 29 juin au 10 août. Élise Guibon est en charge du programme pour le YMCA Nouvelle-Écosse au travail et coordonnatrice régionale Atlantique-Québec. Elle est au micro de Julia Chénu à Halifax.
C'est un programme d'échange pour les jeunes de 16 à 17 ans pendant les vacances scolaires d'été. Ce programme leur permet de développer une expérience culturelle dans une autre région du Canada et aussi dans une autre langue. Les jeunes peuvent donc voyager dans une autre province, acquérir une expérience professionnelle rémunérée et pratiquer donc soit leur anglais, soit leur français. Et ils vont aussi pouvoir vivre dans une famille d'accueil et avoir une nouvelle famille dans une différente région du Canada.
Ce programme est basé sur les spécificités de chaque province et en plus d'un emploi à temps plein, les jeunes pourront choisir différentes activités pour appréhender leur nouvel environnement.
Pour les emplois, majoritairement, nous avons des organisations communautaires à but non lucratif. Donc, encore en fonction des régions, nous avons eu dans le passé des camps d'été, de la garde d'enfants, travailler dans un musée ou dans un magasin de seconde main. Et pour les activités, donc on a des catégories qui sont les mêmes pour chaque région à travers le Canada. Et c'est agriculture, challenge sportif et physique, vérité et réconciliation, découverte de votre nouvelle communauté, engagement civique. Et ce qui est bien à propos de notre programme, c'est qu'une fois que vous êtes dans votre nouvelle communauté, vous allez pouvoir choisir deux activités que vous voulez absolument faire dans cette région avec votre groupe.
Découvrir une nouvelle région, améliorer une seconde langue officielle du Canada. L'expérience est véritablement unique pour ces jeunes, malgré quelques défis au début.
Certains jeunes sont confrontés à des défis liés aux différences régionales, que ce soit par exemple la langue. C'est pas toujours facile d'arriver dans une nouvelle province et d'avoir un petit peu de vocabulaire et ils doivent travailler. Mais beaucoup de jeunes voient ça comme une expérience, comme une chance d'explorer de nouvelles opportunités, que ce soit professionnelles, éducatives et personnelles, en se déplaçant dans de nouvelles provinces où ils sont peut-être jamais allés.
Certains ont même la chance de participer deux fois à ce programme.
Donc il faut être dans la tranche d'âge de 16 à 17 ans. Donc ceux qui ont la chance d'avoir participé à 16 ans ont la chance de pouvoir repartir à 17 ans. Cette année, on a une personne au Québec qui participe pour sa deuxième année et au New Brunswick aussi.
En Nouvelle-Écosse, la plupart des participants et participantes au programme sont originaires des régions Halifax et Dartmouth.
On essaye de créer ce qu'on appelle des communautés. Donc, par exemple, ici en Nouvelle-Écosse, on a pour le moment Halifax et Dartmouth. En fait, le but, c'est qu'après, quand on fait les activités avec ces jeunes, c'est plus facile de faire des activités quand tout le monde est concentré pour eux de pouvoir se voir. Mais en fonction du nombre de jeunes qu'on a, on ouvre parfois aussi des communautés.
L'intérêt des employeurs est réel. Élise Guibon confirme leur volonté de donner leur chance à des jeunes venant d'autres provinces.
C'est pas quelque chose qu'on trouve difficile de trouver des employeurs. Ils sont toujours très volontaires. Chaque année, on a un groupe d'employés qui reviennent toujours, qui adorent travailler avec notre programme. Donc ça nous aide beaucoup parce que ça nous évite de faire toutes ces démarches pour trouver de nouveaux jobs pour les jeunes.
Le programme fonctionne sur un accord de réciprocité. Les familles d'accueil sont ainsi généralement les familles dont sont issus les jeunes. Mais toute personne majeure et remplissant certaines conditions d'éligibilité peuvent à leur tour devenir famille d'accueil et participer au programme le temps d'un été. Merci à Élise Guibon, en charge du programme Emploi d'été Échange étudiant pour le YMCA Nouvelle-Écosse au travail. C'était Julia Chenu, membre du réseau IJL.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Le Libanais d'origine et Montréalais d'adoption Fadi Daguerre est devenu en 2023 le nouveau chef du service de police de la ville de Montréal, le SPVM. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est allée le recruter en 2023 de l'autre côté du pont et du fleuve, dans l'agglomération voisine de Longueuil, où il travaillait depuis peu. Monsieur Daguerre est reconnu pour sa volonté d'insuffler une culture d'inclusivité là où il passe. Monsieur Daguerre a donc pris les rênes du plus important corps de police municipale de la province au milieu de l'année, une année qui s'est avérée mouvementée. Montréal qui était aux prises avec de nombreux incidents de violence armée. Dès son entrée, il se fixe trois objectifs, celui de mieux recruter, de réagir à la violence armée et de se rapprocher de la population. Ici, un extrait de quelques minutes de sa longue conversation avec notre journaliste Mourad Malmi.
C'était une année assez...
j'étais très occupé sur plusieurs aspects. J'avais trois urgences avec mon équipe de gestion à vraiment devoir adresser rapidement. La première, c'était le recrutement et la rétention. La deuxième, la violence armée. Et la troisième était le rapprochement avec toutes les populations. Et les trois, on a travaillé d'arrache-pied. Il faut dire que le recrutement, grâce à Dieu, va beaucoup mieux au SPVM cette année. On va pouvoir, je vais avoir les chiffres tout prochainement, mais on est dans le surplus, qui est très, c'est très, très rare. Et on a pu ouvrir des portes à des policiers, policières, des futurs recrues, des diversités communautaires, des diversités ethniques, ainsi que des gens avec un parcours atypique social. Donc, ce n'est pas des personnes qui ont fait la technique policière, mais des personnes qui ont travaillé comme travailleurs sociaux, comme dans le milieu des communautaires, et ont voulu devenir policiers. Donc, 130 postes, on a comblé environ 110 à 120 postes sur 130 postes de gens provenant des minorités ethniques et minorités visibles, ainsi que des gens venant d'un parcours atypique. Donc, on commence à avoir un miroir. La police commence à être un miroir de la population. Le deuxième, les violences armées, franchement, les équipes de travail ont fait un travail colossal, et avec les partenaires, les groupes communautaires, tout le monde a travaillé fort en 2023. On va pouvoir annoncer une baisse d'environ entre moins 25 et moins 30 % de la violence armée à Montréal. Très important. Et l'autre, c'est le rapprochement avec les communautés. Ça, c'est un travail qui se fait à court, moyen, long terme. Il faut vraiment mériter le lien de confiance. Et on veut que le SPVM se mette dans une posture d'humilité, de respect envers la diversité, et ne pas la voir, la diversité, comme un défi, mais comme une opportunité.
Black Theater Workshop presents the world premiere of Diggers by Donna Michelle St. Bernard. Abdul and Solomon introduce newbie Bai to the intricacies and dignity of grave digging. But when illness hits their town, they must make the best of a bad situation. Full of song, laughter, tears, and beautiful humanity, Diggers is a tribute to essential workers. Catch Diggers at the Siegel Center Studio from February 1st to the 17th. Get your tickets at siegelcenter.org or call 514-739-7944. More information at blacktheaterworkshop.ca. This is a Black Theater Workshop and Prairie Theater Exchange co-production and CKUT co-presentation.
Ça, c'est fort.